Je ferai mon propre site. Peut-être que ça marchera, peut-être que non. Mais ce sera à moi.
Toute passion peut se monétiser sur le web. Ça, c'est la réalité économique dans laquelle on est actuellement et c'est plutôt cool.
Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie, ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça.
Je ne suis pas venu pour faire des sandwichs, je suis venu pour faire des affaires.
Fais-moi donner des cours de PDG.
Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose qu'on a créé toute pièce, là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant.
Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot.
Boum ! Dollar, dollar, bill, yeah !
Hello, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir une nouvelle invitée cette semaine. C'est Laure Daudier, la fondatrice de My Slow Boîte, qui a pour mission de démocratiser le slowprenariat. Alors, si vous pensez que slowprenariat, ça veut dire un entrepreneuriat lent, qui n'apporte pas des grands résultats, eh ben désolé, vous faites fausse route. Parce qu'en fait, le slowprenariat, c'est savoir entreprendre de manière saine, durable et rentable. Et ça, personnellement, moi, ça me parle. Et c'est pour ça que j'ai absolument voulu discuter avec Laure de cette notion et de cette manière de voir l'entrepreneuriat. Donc dans cet épisode, Laure va nous expliquer concrètement ce que c'est le slowprenariat. Elle va nous expliquer comment sortir de ce fameux faire plus pour avoir plus. On va également répondre avec elle à des questions importantes comme est-ce que nous avons tous les mêmes chances quand on se lance? Est-ce qu'il existe une méthode miracle pour réussir à tous les coups? Et encore bien d'autres sujets passionnants, je vous invite à écouter cette interview qui va d'office vous remuer, mais vous allez voir, elle va vous faire du bien et on se retrouve après pour les conclusions. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Laure de ma Slow Boîte dans cet épisode parce qu'on va parler de travail, mais de travailler intelligemment. Parce que Laure, sa mission, c'est de nous expliquer comment travailler mieux, pas forcément plus, mais mieux, plus intelligent, plus intelligemment, avec son slogan que j'adore, « Work smart, play cool ». Je suis hyper fan. Alors Laure, bienvenue dans le podcast. Avant de te présenter et d'expliquer ce que c'est le slowprenariat, j'ai directement une question cash pour toi. Au final, c'est quoi travailler? Et ça veut dire quoi travailler en 2024?
Merci Valentine, déjà je suis hyper contente d'être sur ton podcast depuis le temps qu'on échange toutes les deux, c'est chouette de pouvoir venir parler à ton auditoire. Très bonne question de démarrage, le travail, pour moi il y a deux composantes principales, en étant à la fois idéaliste et pragmatique je dirais. De manière idéaliste je dirais c'est ce qu'on fait qui va nous permettre d'avoir un impact, d'atteindre un certain objectif, donc c'est autant valable pour nos métiers qu'un travail qu'on peut faire sur soi ou un travail qu'on peut faire même pour des loisirs, c'est cette idée de mettre en place des actions pour obtenir un certain impact. Et la manière plus pragmatique, je dirais que c'est ce qui nous permet de gagner notre vie financièrement aussi, et pour moi le travail idéal c'est peut-être celui qui nous permet de faire tout ça de la manière la plus sereine et respectueuse de soi possible.
J'adore ta définition parce que je trouve qu'on a de plus en plus ce côté, avec ces injonctions, il faut travailler dur, il faut cravacher pour réussir. Et les gens se rendent pas compte, je trouve que parfois le travail, ça peut être un plaisir. Est-ce qu'à certains moments, on peut avoir l'impression de ne pas travailler?
En fait, si on entend le travail dans le sens le dur labeur et tu vois l'effort absolu, évidemment que pendant qu'on travaille, on peut avoir l'impression des fois que c'est pas du travail dans ce sens-là. Mais je pense que c'est là où la définition qu'on en a, elle compte. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi l'impression de travailler même quand je fais des choses qui me font plaisir, mais je vois pas ça négativement, tu vois. Je considère pas aujourd'hui le mot travail comme quelque chose de lié à de la souffrance, à de la difficulté. Des fois, il y en a, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui définit. Donc ouais, ça dépend, c'est très subjectif finalement. Mais on peut, si on se veut, se dire, moi, j'ai pas l'impression de travailler, si ça nous rassure, parce qu'on a encore une vision très laborieuse et tu vois, un peu dur du fait de travailler. Mais j'avoue que je suis pas mal libérée de ça, donc j'en ai peut-être une vision qui est un peu différente aujourd'hui.
Ouais, ouais, moi c'est pareil, c'est vraiment travail, passion. Alors ça peut être assez négatif parce que forcément il n'y a pas vraiment de limite, mais pour l'instant ça va, mm-hmm. je m'en porte bien. Et moi je déteste qu'on me dise, ah oui, tu travailles dur, tu travailles ouais. beaucoup. Parce que je suis là, mais moi je m'éclate.
Ouais. Ouais, et puis des fois, tu vois, on va avoir une quantité d'heures qui est énorme et on va bien le vivre, ça dépend tellement de la réalité qu'on vit aussi, de ce qu'on a autour du boulot, et donc c'est pas tellement qu'une question d'heures, et donc on a en tout cas pas l'impression de souffrir. Et à l'inverse, il y a des gens qui travaillent pas beaucoup en quantité d'heures, mais pour qui c'est horrible. Mm-hmm. Tu vois, il y a plein de gens qui sont même salariés à des boulots qu'ils n'aiment pas, ils vont peut-être faire entre guillemets que 35 heures par semaine, mais c'est pas pour ça que c'est pas une souffrance, quoi. Donc ce qu'on fait de ces heures-là, pour moi, a beaucoup plus d'importance que la quantité, ou ouais, c'est... Il y a beaucoup plus de paramètres que ce qu'on voudrait croire, je crois.
Mmh. Ouais, non, mais je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Alors, du coup, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, j'aimerais savoir un petit peu, mais du coup, c'est quoi ton parcours ? Tu l'as dit maintenant, tu as une vision un petit peu plus libérée du travail, on n'est plus dans la souffrance. Et il me semble que ça n'a pas toujours ouais. été comme ça.
Pas du tout. moi, j'ai eu une éducation vis-à-vis du travail qui était de... un peu la mission d'une vie, tu vois, la réussite professionnelle et l'investissement dans la vie professionnelle. Ça a été le modèle que j'ai eu du côté de mon père, notamment, qui a été depuis, sur les 25 dernières années de sa vie professionnelle, entrepreneur aussi. En tout cas, j'ai démarré dans la vie active, et notamment quand j'ai trouvé ma voie, tu vois, où moi j'étais dans la communication pendant longtemps. J'ai toujours eu de l'ambition, et le seul moyen pour moi de l'obtenir, c'était de travailler dur et de travailler beaucoup et de donner beaucoup, notamment aux boîtes pour lesquelles je bossais. Et j'étais assez convaincue, parce que c'est tout ce que je recevais comme message, hein, que c'était de toute façon le seul moyen d'y arriver. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, et notamment sur mes 4 dernières années de salariat où j'avais vraiment envie de monter en galon, tu vois. Et donc j'ai donné beaucoup, 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 en espérant une reconnaissance qui n'est jamais arrivée. Et de manière malheureusement assez classique, j'ai fait un burn-out à cause de ça. Nombre d'heures, plus manque de reconnaissance, plus une sortie de zone de confort permanente par rapport à ce qu'on me demandait. Et ça a été un premier déclic, je dirais, parce que je me suis un peu dit, mais en fait, ça marche pas, leur truc, là. Enfin, tu vois, au départ, un petit peu en me disant, c'est moi qui suis pas capable de résister, mais vraiment, je me disais, mais tout ce en quoi j'ai cru, finalement, c'est pas valable pour moi. Je me suis mise à mon compte suite à ça, en voulant avoir plus de liberté dans ma manière de travailler et faire les choses plus à ma manière, tu vois. C'était vraiment ça l'enjeu. Travailler moins aussi, parce que je faisais 60-70 heures par semaine à l'époque, donc voilà, ça c'était plus possible. Mais je crois que j'avais encore, tu vois, cette idée-là en me lançant que, bah, étant à mon compte, de toute façon, il allait falloir que je cravache quand même un minimum au départ pour, mmh. Pour atteindre un certain niveau de vie, etc. Et puis je suis tombée enceinte. Et donc ça, c'est pas la grossesse en soi qui m'a impactée, mais la première année où j'ai eu mon enfant et en même temps j'ai essayé de développer mon business en freelance, je me dis, mais je comprends pas comment les gens font, en fait. J'avais trop de choses, trop de fatigue, trop de choses à gérer. Et ça m'a semblé beaucoup plus simple de revoir des choses du côté de mon business, tu vois, de simplifier. Je me suis dit, il faut que je simplifie, il faut que j'aille plus droit au but, il faut que je cherche les actions les plus efficaces, tu vois, un peu la loi de Pareto qui est venue en réflexe, parce que côté maternité, je pouvais rien maîtriser du fait d'avoir un bébé. Enfin, là-dessus, je ne sais pas s'il est possible de maîtriser quoi que ce soit. Et là, je me suis rendu compte que ce qui était au départ quelque chose un peu en mode survie, et où j'étais... presque ok avec le fait que j'allais mettre beaucoup plus longtemps à me développer, tu vois, c'était ça la première idée, bah tant pis, je lâche du lest sur le business, je vais juste essayer de quoi gagner un petit peu de chiffre d'affaires, enfin, j'avais un peu lâché prise là-dessus, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme ça que mon business a décollé. Et c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je me suis dit, mais en fait, en fait, c'est marrant, quand on travaille plus à sa manière, ça donne de bien meilleurs résultats. Et c'est ça qui m'a amené vers la voie du slowpreneuriat et qui m'a fait découvrir cet état d'esprit-là.
Ah oui, ok, je savais pas que c'était ça l'histoire. Et en fait, C'est intéressant parce qu'on parle de plus en plus du slowprenariat. Et il n'y a pas longtemps, j'écoutais un autre épisode de podcast où on en parlait. Et c'était un petit peu l'idée, ben, soit tu cravaches et tu as un gros chiffre d'affaires, ou soit tu cravaches pas, mais tu vas rester un petit chiffre, entre guillemets. Bon, chacun met ses objectifs de chiffre d'affaires où il veut. Mmh. Et toi, au final, ça a été complètement l'inverse.
Ouais, en fait, j'ai passé... Je peux même être très transparente sur mes chiffres d'affaires parce que je crois que c'est important aussi de savoir de quoi on parle. Moi, j'ai commencé, en gros, ma première année en slowprenariat, c'était 2019-2020. Mon objectif, c'était pas forcément tout de suite d'augmenter mon chiffre d'affaires. À l'époque, je faisais à peu près, je crois, 19 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'avais encore du chômage à côté. Donc, si tu veux, j'y allais tranquillement. Mm-hmm. Mais en l'espace d'un an, j'ai réduit de 10 heures par semaine mon temps de travail. Donc, j'ai vraiment pu augmenter ma rentabilité. 2021, j'avais fait 32 000 euros, je crois. Donc, tu vois, sur le même nombre sur le même temps de travail, pardon. 2022, pardon, j'ai fait 45 000 et 2023, j'ai fait 50 000. Donc, tu vois, je suis toujours en croissance.
Oui.
Je répartis différemment ce que je me verse à moi. Globalement, aujourd'hui, je me verse la moitié. Donc, je vis bien de mon travail. J'ai plus de chômage depuis un moment aussi. Donc, je vis uniquement de mon activité. C'est malgré tout à fait possible de faire de bien plus grands chiffres d'affaires dans le même temps. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de paramètres et il y a beaucoup de choses qui dépendent du business model, de ton secteur d'activité, des méthodologies que tu utilises, des opportunités que tu peux avoir. En fait, tu vois, c'est beaucoup plus complexe que, je dirais, que des recettes magiques, tu sais, un petit peu, bah, dans tel business, tu peux faire dans tel... Ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui, donc j'ai pas envie de mettre, au-delà du temps de travail, de mettre forcément plus d'énergie que ça dans mon boulot. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de ça, mais on a le droit de faire des choix différents. Puis encore une fois, ça dépend du business, ça dépend de ce qu'on fait comme métier.
Totalement d'accord. Ça dépend du marché aussi.
Ouais, mais ça,
quand on le voit... Il
y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas,
mais
en
oui,
fait.
Enfin, oui,
faut arrêter de vouloir tout contrôler, je crois.
Exactement. Et souvent, je suis d'accord avec toi, on met le temps de travail comme étant le truc... Alors que, et j'en parlais dans un épisode de podcast récemment, c'est que moi, avec toutes les formations business que j'ai fait, mastermind et tout, on ne fait que parler de temps de travail, délégation, structure et tout.
Ouais.
Mais jamais on va te parler comment analyser ton marché pour voir quel est le potentiel en termes de chiffre d'affaires et d'efforts de travail. Alors que c'est la base.
Mais oui, en fait, il y a des choses qu'on va maîtriser soit dans les choix qu'on fait, mais il y a aussi plein de choses qui arrivent de l'extérieur qu'on ne maîtrise pas. Mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est l'observer et se dire, bah, dans ce contexte-là, qu'est-ce que moi, je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi. Mm-hmm. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et en fonction de ça, on va prendre une voie différente pour atteindre sa mission, tu vois. Moi, la manière dont je travaille aujourd'hui sur le slowprenariat, c'est pas forcément la manière d'autres personnes. On n'a pas forcément les mêmes revenus, enfin même sur l'accompagnement business en général. Hein. Mais moi, par exemple, je n'ai pas du tout envie de faire des sessions de coaching, de groupe, high ticket, etc. Mais c'est ma posture, c'est-à-dire que je comprends ceux qui le font. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que je serais capable de le faire? Très probablement. Mais du coup, je n'y vais pas pour ça. Et aussi parce que je tiens à avoir une croissance qui soit douce. Parce que je sais que je vis pas forcément bien les changements, tu vois, même positifs. Moi, j'ai besoin de temps pour m'adapter. Donc, mon choix de rythme de croissance, il est aussi lié à... Je préfère y aller doucement et prendre le temps de faire l'ajustement de posture nécessaire au fur et à mesure plutôt que de viser une hyper-croissance qui va peut-être être très cool pour l'extérieur, mais que moi, je sais, sera difficile. Enfin, tu vois, ce sera difficile à vivre pour moi. J'ai pas envie que mes enfants, ils payent les pots cassés de « Maman, elle a voulu faire 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année, mais par contre, ça va être dur à la maison, quoi.
Mm-hmm. » Hyper important également à rappeler son envie de croissance. En fait, j'ai l'impression que le slowprenariat, et tu vas nous donner ta définition tout de suite, souvent... Les gens entendent le mot slow, lent, et on n'a pas envie, parce que par définition, l'être humain n'a pas envie d'être lent.
Mais, oui.
Mais au plus, j'ai appris à te connaître et à connaître ce que tu partageais. Au final, est-ce que ce n'est pas de l'entrepreneuriat qui est sain pour nous, au final, le slowprenariat?
Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut en faire une traduction plus dans le ralentissement par rapport à un excès qui existe aujourd'hui, plus que juste traduire ça par entrepreneuriat mou. Mmh. Et c'est ça l'image, et c'est marrant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants qui sont dans cette dynamique mais qui n'osent pas le dire comme ça parce qu'ils ont conscience, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore une connotation négative dans beaucoup de milieux business. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à un confrère, c'est presque un acte militant de ma part d'insister sur le mot, mais parce que j'estime que c'est mon rôle dans cet écosystème-là, enfin en tout cas c'est un rôle que j'ai envie de prendre. Mais c'est exactement la même chose que la slow food, la slow fashion, la slow life. Je veux dire, quand tu fais de la slow food, quand tu manges de la slow food, c'est pas pour ça que tu manges lentement ou que tu cuisines lentement, tu vois. Oui. C'est juste l'idée de moins est mieux. Et du coup, je crois que ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat par rapport à ce mot-là, c'est qu'on a une vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est tellement dans le plus, parce que le modèle startup est celui qui donne la direction globale. Même pour les freelances, même pour les entreprises traditionnelles, c'est un petit peu notre, tu vois, ce à quoi on se compare, que là, la réponse, elle est à la fois nécessaire et en même temps, c'est hyper à contre-courant, quoi. Et l'idée de ralentir dans le business, il y a plein de gens qui se disent, mais c'est pas possible, puisque le business, par principe, on monte, tu vois, c'est de la croissance. Mais bien sûr, mais c'est la vitesse qu'il faut regarder. Et c'est pas du sous-entrepreneuriat, et ça demande de s'y intéresser un petit peu plus pour le comprendre et de passer au-delà du mot. Et du coup, si je peux donner une définition assez claire de ce que c'est le slowpreneuriat pour moi, c'est entreprendre de la manière la plus saine, durable et rentable possible. Donc saine, c'est-à-dire en prenant soin de soi et en limitant le stress au maximum à la source, pas juste le gérer. Mais comment faire pour le limiter à la source ? Durable pour son projet, mais aussi pour soi, pour être capable d'être là encore dans 10, 15, 20 ans et de ne pas s'être cramé au passage. Et rentable au niveau financier, bien sûr. Nous aimons l'argent dans le slowpreneuriat. On n'a pas forcément tous les mêmes objectifs financiers, mais on n'est pas contre l'argent. Et c'est rentable aussi en termes d'efforts fournis, pas juste de temps. Tu vois, moi aujourd'hui, quand j'ai passé pas forcément beaucoup de temps à obtenir un résultat, mais que ça a été difficile, que ça m'a demandé beaucoup de sorties de zone de confort, bah, j'estime que c'est pas si rentable que ça. Et donc, c'est vraiment ces trois piliers-là qui vont faire qu'on va développer son business en se mettant au centre. C'est vraiment cette idée de, tu sais qu'on entend beaucoup, mais sans forcément savoir comment on fait, de avoir un business qui est au service de sa vie. Bah, c'est exactement ça. C'est moi aujourd'hui, voilà ma réalité, voilà ce que j'ai envie de développer, mais est-ce que, quelle énergie j'ai, c'est quoi ma réalité familiale, c'est quoi ma réalité de comment je m'adapte au changement, enfin tu sais, tout plein de choses. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai comme compétences et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à contribution pour mon business. C'est quoi mes talents, il y a quoi en fait dans ma zone de confort, et je construis à partir de tout ça. Et puis quelque part, il y a un petit côté, je crois, je verrai bien ce que ça donne, mais de mon constat, ça donne plutôt des choses pas mal.
Exactement, et en fait, je me rends compte en te parlant qu'on a exactement la même façon de voir les choses. Mais au final, faire les choses alignées, essayer de faire des actions intelligentes également, on en parlera, surtout exactement. Avec les outils du web qu'on a actuellement. Et c'est vrai que je remarque, moi je suis un petit peu partie des extraterrestres dans le monde du web, parce qu'au final, je fais tout seul, sans cravacher 10, 15 heures par jour. De toute façon, j'en serais incapable. J'ai un cerveau qui déconnecte au bout de 4 heures de travail. Donc, les choses sont très simples pour moi. Et les gens n'arrêtent pas de me dire, mais c'est pas possible, et comment tu fais, etc., etc. Et en plus, j'ai un chiffre d'affaires qui est toujours au-dessus des 6 chiffres, où là, ça capitule encore plus. Et je voulais te poser la question, est-ce que le slowpreneuriat, c'est compatible avec des objectifs de chiffre d'affaires, quel qu'il soit, et je pense que j'ai déjà la réponse, c'est oui au final. Alors peut-être pas en un an par contre. Est-ce qu'on peut faire ?
Eh bien, je te dirais, ça dépend. Regarde quelqu'un qui a déjà une expérience passée, qui a peut-être déjà mené des projets, donc qui peut capitaliser sur un réseau, qui peut capitaliser sur des compétences, qui a déjà peut-être lancé un business. Je crois que c'est tout à fait possible, tu vois, selon le business model, etc. Non, je pense que c'est complètement possible. Il faut juste se demander si c'est ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de généralité. Je crois que c'est un des grands fléaux dans l'écosystème business, c'est les généralités et les choses qui sont présentées comme si tu fais ça, ça va marcher. Ou si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Mais pour moi, ce n'est pas ça la vie. Enfin, ce n'est pas ça la vie business. Enfin, quand on regarde sur le terrain, quand tu discutes avec des gens, tu te rends compte à quel point il y a beaucoup de variété. Et à côté de ça, tu peux aussi avoir quelqu'un, je sais pas, qui démarre, c'est son premier business, mais qui va se lancer sur un marché avec une compétence particulière qu'elle ou il va être la seule à avoir, et ça va cartonner. Tu vois, c'est... Et comme il y a des gens qui resteront en dessous des 100 000 euros de chiffre d'affaires toute leur vie, et ça leur ira très bien. Enfin, c'est... Ouais, encore une fois, c'est pas une question de est-ce qu'avec cette méthode-là, on peut atteindre ce résultat-là. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup plus d'éléments que ça à prendre en compte que est-ce qu'on peut mettre en face tout le temps le temps. Parce que tu vois, quand on parle sur l'année, le temps et oui. Le chiffre d'affaires. Le business, c'est pas que du temps et du chiffre d'affaires.
Yes, j'adore. Totalement. Et tu as raison, du coup, ma question n'était pas spécialement légitime par rapport à la...
non, mais c'est pas... Ah non, c'est pas pour te contredire.
Oui.
Je pense que c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. Et d'autant plus, tu sais, quand on se lance, on va regarder un peu les modèles qu'on admire et on a déjà du mal à comprendre que tout ce qu'ils ont déjà en place, on n'est pas obligé de les mettre en place dès le départ. C'est-à-dire que les gens n'ont pas tout mis en place au départ, si ça fait plusieurs années qu'ils sont là, voilà. Et c'est normal, je pense, de se dire « Oh là là, j'aimerais bien avoir tel résultat, je me sens prête à ça, mais est-ce que c'est possible en un an ?» Dans l'absolu, oui, c'est possible. Est-ce que ça sera possible pour la personne par rapport à ses réalités, ce qu'elle a dans sa musette, tu vois ? Je sais pas, c'est du cas par cas.
Mm-hmm. Oui, et ça montre qu'on est quand même encore très fort gangréné par rapport à... le temps, le chiffre d'affaires sur autant de mois, etc. Et c'est les success stories qu'on voit partout sur le web. Ouais. J'ai quelques questions par rapport à ça, parce que je sais que tu as très envie de nous faire un petit point mindset et de dégommer toutes les idées reçues qu'on voit sur le web. Avant ça, j'avais une question qui est même un petit peu personnelle, parce que je te le disais, là, voilà, moi, j'ai compris maintenant que cravacher 15 heures par jour, c'était pas spécialement ma manière de bosser, mais il y a des moments, je m'en veux, parce que j'ai tellement ce truc, il faut bosser dur, je l'ai tellement entendu, et même parfois quand je me dis, ok, j'ai envie de développer le business, parce que tout simplement, j'ai envie de scaler au niveau du chiffre pour plein de raisons, à chaque fois, je me rajoute des choses, je me rajoute des tâches. Comment ça se fait qu'on a encore ce truc en nous, qui est là, il faut faire plus pour avoir plus?
Alors, nous, en France, on a eu Nicolas Sarkozy qui a mis un espèce de slogan à l'époque pour les heures sup et qui a eu un espèce d'effet, bon, qui a appuyé une croyance qui était déjà là, mais je pense que ça n'a pas aidé. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est dans quel environnement de croyance on évolue dans l'entrepreneuriat et dans le monde du travail en soi. Et pour moi, il y a plusieurs choses qui expliquent à la fois ces croyances-là et la culpabilité qu'on peut ressentir. C'est que le travail est encore très vu comme il l'était à l'ère industrielle. Tu sais, à l'époque, on a commencé à construire des machines, toutes l'époque du travail à la chaîne, etc., où c'était beaucoup de travail d'usine, de fabrication d'objets. Et bah, mathématiquement, la machine, plus tu la fais tourner et plus tu as de gens qui font tourner les machines sur un nombre d'heures et plus tu produis, effectivement. Sauf que beaucoup de métiers aujourd'hui, et notamment pour les gens qui sont dans des métiers du web, on n'est pas dans de la production, on est sur de la matière grise. Et déjà, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas une machine et tu l'as très bien dit, pour la plupart des gens, au-delà de 5-6 heures de travail, l'efficacité décroît. Donc, mais tu vois, on ne va pas forcément chercher ça. Et il y a aussi le fait qu'on est très convaincu par héritage religieux et par héritage du capitalisme méritocratique dans lequel on évolue toujours, qui sont, tu vois, des systèmes économiques sociétaux, on a cette impression que la réussite se mérite après avoir travaillé beaucoup. Quelque part, c'est pas être une bonne personne que de réussir, surtout au niveau financier, hein, au sens où on l'entend la plupart des gens, sans avoir souffert dans la balance, sinon c'est pas très juste, comme si on avait volé quelque chose à quelqu'un. Sauf que ça, ce sont des croyances qui sont hyper ancestrales, finalement. Hein. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que, en lisant le livre Sapiens, que je conseille à tout le monde, que la Bible a été écrite à une époque, par exemple, où l'économie n'était pas, c'était pas l'économie de la croissance, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un nombre de richesses délimité. Et donc, forcément, quand quelqu'un gagnait plus que les autres, c'est qu'il avait bah, c'est qu'il y en a qui gagnaient moins. Donc, tu vois, il y avait vraiment, hein, si je prends à, là, ça prend à quelqu'un d'autre. Et donc, les personnes qui avaient plus d'argent, il fallait qu'elles soient sacrément dans le don d'elles-mêmes et dans l'aide aux autres, parce que sinon, elles avaient volé quelque chose, tu vois. Mais ça fait longtemps qu'on n'est plus sur ce système-là. Aujourd'hui, on est sur... Enfin, le capitalisme, par définition, on crée de la richesse. Mais ces textes-là, ils ont fait les valeurs de notre société. Donc, tu vois, c'est tous ces trucs-là, quand tu commences à creuser, t'es là, mais en fait, c'est complètement dépassé. Malgré tout, ça fait partie des croyances qu'on a. Et notre cerveau, pourquoi tu ressens de la culpabilité, c'est que le rôle de la culpabilité, c'est de te dire quand tu sors des clous, quand tu transgresses quelque chose, tu vois, et quand, globalement, quand t'es sur le point de faire une connerie. Et il y a une espèce de filtre comme ça dans le cerveau qui, quand tu vas prendre une décision, faire une action, ça va passer dans ce filtre-là, en gros, pour checker est-ce que t'es dans les clous ou pas. Et c'est valable pour des choses qui sont vraiment pas bien, tu vois, aller draguer le voisin après avoir pris un café avec la voisine, ou il y a des choses où vraiment c'est normal d'avoir de la culpabilité. Et dedans, il y a aussi toutes les croyances partagées par la société. Et le cerveau, il sait pas bien faire la différence. Donc en gros, quand tu agis différemment, tu vois, t'as envie de croître et tu te dis, c'est quoi la croyance globale ? Si je veux avoir plus, il faut que je produise plus. Et quand tu ne le fais pas, bah, le filtre, il s'active et ça te dit « t'es en train de faire une connerie ». Et donc là, c'est une réponse de culpabilité qui est finalement, qui n'a pas lieu d'être, mais qui est normale. Et une fois que tu comprends ça, bah, t'es capable de dire à ton petit détecteur « non, non, mais c'est bon, tout va bien, c'est juste une croyance qu'il y a d'il y a plus de 2000 ans, c'est plus d'actualité ». Et moi, je trouve que rien que de comprendre ce qui se passe en nous, ça aide à se dire « bah ouais, mais là, aujourd'hui, j'y arrive pas, c'est pas grave ». Ça peut être frustrant, c'est-à-dire que des fois on peut se dire du coup je vais arriver moins vite, tu vois, à mes objectifs. Ça peut être frustrant éventuellement, mais la culpabilité, c'est un sentiment dont il faut assez vite se débarrasser, je pense, si on veut tenir aussi sur la durée, parce que c'est stressant. C'est dégueulasse comme émotion, tu vois.
Ouais, j'aime beaucoup comment tu le dis. Je trouvais ça très intéressant ce que tu disais sur l'évolution du travail, où avant on était sur de la machine, du manuel, et maintenant c'est de la matière grise. Et effectivement, on le voit, on a des croyances qui sont méga méga vieilles, et nos manières de bosser ont complètement changé, et on est sur des activités complètement différentes. Comment ça se fait, malgré que tout a évolué? Et alors, bon, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est possible les revenus passifs et tout et tout, mais n'empêche, il y a quand même dans énormément de boulot sur le web actuellement moyen de changer d'un peu de ce paradigme temps-heure, etc. Comment ça se fait que sur le web, on a encore autant d'idées reçues sur le travail, alors que justement, enfin, il y a vraiment une différence entre les deux, il y a les deux extrêmes, c'est soit fou rien devient millionnaire, ou soit cravache.
Ouais, je crois que sur le web en particulier, quand on travaille sur le web, on va aussi consommer beaucoup de choses, beaucoup de contenu aussi. Et il y a aussi pas mal d'outils qui peuvent nous aider à aller plus vite, à avoir plus de résultats plus rapidement. C'est une des chances qu'on a, je trouve, sur ces métiers du web, qui ont tendance à vendre leurs produits un peu comme des outils miracles, quoi. Genre, avec ça, vous allez gagner tant d'heures, etc. Donc, je crois qu'il faut être très, très vigilant et garder un peu la tête froide par rapport à tous les discours marketing. Et quand je dis les discours marketing, ça inclut aussi tous les témoignages d'entrepreneurs qui ont atteint certains niveaux de réussite. Prendre un peu de recul par rapport à ça, aller creuser. Est-ce qu'ils ne parlent que de leur succès, par exemple? Ou est-ce que ces gens-là parlent aussi de leurs difficultés? Pour moi, un entrepreneur qui va parler que de ses succès, qui va jamais parler de ses difficultés, mais je vois rouge, quoi. Parce que je dis pas que c'est indispensable, mais on rencontre tous des moments plus galères que d'autres. Enfin, tu vois, c'est la vie, hein. C'est juste la vie. C'est-à-dire que même s'il y en a qui peuvent avoir juste un gros coup de chance et avoir un overnight success, mais vraiment par coup de bol, ça peut arriver. Mais ça va arriver une fois, puis après, c'est regarder comment ces gens-là continuent à parler de leur réalité. Est-ce qu'on a l'impression que les moins bons côtés sont donnés aussi, et aller plus loin. Tu vois, pour moi, un des gros problèmes, c'est que quand tu demandes à ceux qui ont réussi comment ils ont réussi, mais dans 99% des cas, la première réponse, c'est « je travaillais dur ». Mais il y a plein de gens qui travaillent dur. Je veux dire, il y en a vraiment beaucoup, et pour autant, ils n'ont pas tous ce succès. Et donc, du coup, ça veut dire que toute cette personne-là qui justifie, qui explique « je travaillais beaucoup, je travaillais dur, j'ai tenu sur la durée, c'était stressant », En fait, ils n'ont pas analysé vraiment qu'est-ce qui les a fait réussir. Et je ne sais pas si les gens prennent le temps de se dire, bon, attends, c'est quelles actions, c'est quels outils, tiens, tel outil m'a amené quoi exactement ? Parce que c'est un travail de limite d'orfèvre, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un côté, si chacun commence à partager ses tips honnêtes, les outils, vraiment ce qui les a aidés, on va peut-être se rendre compte que finalement, bah, il n'y a pas de méthode miracle parce que le parcours et les outils et les méthodes vont être différents pour chacun. Et ça ne nous arrange pas. Parce qu'on a très envie que quelqu'un nous dise « Ah bah écoute, tu vas réussir, c'est pas compliqué, fais ça. » Ça m'a donné ces résultats et t'as juste à dupliquer le modèle. Et je crois qu'on cherche beaucoup à dupliquer les modèles. Et comme il y a beaucoup d'informations sur Internet, on ne sait plus où donner de la tête.
Mm-hmm.
Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu te lances sur le web et que tu te dis « Bon alors, j'ai plein d'outils, etc. Mais un tel dit, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Un tel dit, c'est comme ça qu'on fait. » Et eux de se dire « Bon ben c'est normal. » Il y a plein de voies possibles à moi de construire la mienne. Et bien, on essaye un petit peu ça, on essaye un petit peu ça. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir le potentiel de réussir en travaillant de manière raisonnable et que tu te disperses finalement parce que tu as entendu quelqu'un qui a donné sa méthode et tu n'arrêtes pas de switcher entre « Ah bah attends, sa méthode, elle doit mieux marcher. Ah bah attends, sa méthode, elle doit mieux marcher. » Donc ouais, c'est un gros chaos.
Oui, je suis totalement d'accord. Et pour le coup, je fais partie des gens qui vendent des méthodes. Donc, je vois très, très bien de quoi tu parles. Et je dis toujours à mes clientes, c'est pas ma méthode qui est meilleure que les autres. Mais par contre, il faut savoir avec quoi on va être aligné. Et exactement, on revient avec le fait d'avoir un business qui est bon pour nous, qui est sain pour nous. Et moi, par exemple, il y a des choses que je déteste faire en business qui me prendraient une énergie de dingue que je ne fais pas. Et c'est très clair. Par exemple, tout ce qui est appel découverte. Ça me saoule. On est là. Et je dis aux gens, si jamais tu as envie de passer par des appels découvertes, ben, soit ma formation n'est pas bonne pour toi, ou soit tu sais quoi, tu adaptes. Et en fait, moi, c'est ce que je préfère. C'est normal au début, quand on débute, je pense, de suivre un schéma. Mais moi, je suis toujours la première à dire, s'il y a des choses que tu veux adapter, teste, en fait. De toute façon, le business, c'est tester avant de trouver le truc qui va fonctionner pour nous. Donc, pars d'un schéma, je te donne un maximum de choses, mais si tu veux supprimer des trucs, en ajouter et voir au fur et à mesure si ça fonctionne, pourquoi pas. Au pire, il n'y a pas de résultat et tu réajustes.
Exactement. Et c'est vrai que toi, la manière dont tu vends tes produits, et c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que, oui, c'est des méthodes, mais c'est pas la méthode et comme tu dis, c'est pas une méthode qui va fonctionner pour tout le monde. Et pour moi, le job de tes clients, c'est de commencer par se demander. Et tu proposes notamment pas mal de contenu gratuit avec tes masterclass, etc., qui vont permettre de voir comment tu travailles. Tu es assez transparente sur ce qu'on va trouver dans tes offres. Donc, ça permet pour moi aux gens de se dire, tiens, est-ce que ça a l'air de me convenir ? Est-ce que déjà j'ai un business qui ressemble à ça ? Est-ce que j'ai envie de travailler sur le web ? Est-ce que ça, c'est le job des gens de se poser ces questions-là ? Et si ça s'est validé, de se dire, bah, ok, maintenant que je pense que la méthode de Valentine, c'est une bonne méthode pour moi dans l'ensemble, même si je peux ajouter des petits trucs, ok, j'y vais. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui vendent des méthodes. Et quand je dis vendre, c'est même pas forcément ce qu'ils vendent en tant que produit. C'est la manière, encore une fois, dont ils parlent de leur parcours. Comme, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Tous les gens qui te disent... je rigole parce que j'en vois tellement passer en ce moment que... Bon, ça me met un petit peu... ça met de l'eau à mon moulin, mais en même temps, ça m'agace un petit peu. Les points communs de ceux qui réussissent. Alors, je sais qu'il y a même un livre best-seller là-dessus que j'ai lu, Les 7 habitudes des gens qui réussissent. Ouais, mais c'est juste des points communs, enfin, c'est pas des méthodologies, de toute façon, il n'y a pas de méthodologie miracle, et il y en a encore beaucoup qui essayent de pousser ce que j'ai fait pour moi, ça ne peut que marcher pour les autres. Et ça, c'est ça le vrai problème. Alors qu'on devrait, et tu le fais très bien, être suffisamment transparent sur voilà à quoi ressemble ma méthode, voilà à quoi t'attendre. Pose-toi la question de est-ce que ça colle avec ton mode de fonctionnement et avec tes envies ? Si oui, très bien, bienvenue. Sinon, accepter qu'on n'est pas la bonne personne pour tout le monde.
Ah ben, j'adore, merci. Tu sais que je suis en train justement de repenser à toute ma communication. Et ce que tu te donnes là, c'est des pépites là. Tu es en train de me faire une séance de consulting communication.
Écoute, c'est cadeau.
Merci. Non mais alors, on s'égare un peu du sujet. Parce qu'en fait, moi, j'ai très peur de vendre du rêve. Je ne veux pas faire partie de ces vendeurs de rêves. Et donc, c'est hyper intéressant ce que tu me dis. Donc voilà, merci. Je réécouterai bien ça avec attentivement. Alors, on parlait un petit peu des injonctions sur le web. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois passer tout le temps qui t'énervent, que ça te donne des boutons?
Je pense que le conseil qui me donne le plus de boutons, mais d'autant plus depuis que j'ai compris à quel point c'était du bullshit, c'est le « il faut sortir de sa zone de confort pour réussir ». C'est un peu un de mes sujets phares, mais parce que pour moi, c'est l'un des plus gros mensonges, souvent involontaires, hein, parce que la plupart des gens qui le diffusent en sont convaincus. Ouais, c'est un énorme bullshit. Et ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que, d'une part, on en sort tous de notre zone de confort malgré nous, parce qu'on évolue dans une société où tout ne convient pas à ce qui est parfait pour nous, donc c'est aussi un moyen de vivre en société, donc que tout le monde se rassure, des sorties de zone de confort, on en fait tout le temps. Ce qui est plus problématique, c'est quand on explique ça, bah, encore une fois, comme si c'était une méthode, tu vois, bah, pour réussir, tous ceux qui ont réussi, ils ont un point commun, c'est qu'ils osent sortir de leur zone de confort. Alors que pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un outil éventuellement pour prendre un raccourci. C'est-à-dire que parfois, il y a quelque chose qui vraiment va te demander qui va être très inconfortable, qui va te demander de t'adapter, tu as peut-être peur, etc. Mais tu vas y aller parce que l'objectif derrière, tu te dis, c'est un objectif qui est suffisamment important pour moi pour justifier de me mettre dans un état de stress qui va avoir un impact négatif sur moi et sur mon corps. Et à la limite, si tu as bien identifié ça, et que tu fais ce qu'il faut autour pour « je vais être stressée », donc qu'est-ce que je mets en place pour évacuer ce stress, pour peut-être réajuster les choses dans cette période, pour ne pas avoir d'autres choses qui me stressent, enfin vraiment, en gros, je fais l'effort, mais il ne faut pas qu'il y ait une surcharge, enfin, vraiment, pourquoi pas, et je le fais aussi, hein. Mais je crois que très souvent, on ne se pose pas du tout ces questions-là. Et ce qui est très dommage aussi, c'est que dans notre zone de confort, là où tout le monde pense que c'est une zone d'inaction, ce qui n'est pas du tout le cas, il y a plein de choses pépites. Enfin, c'est juste là où se trouve notre manière de fonctionner naturelle, nos talents, nos envies, les choses pour lesquelles on est doué. Si on dit toujours aux gens, en gros, si c'est trop simple, cravache, faut que tu sors de ta zone de confort, faut que tu sors dans l'inconfort. Mais ça fait plein de gens qui galèrent parce qu'ils passent leur temps à essayer de s'améliorer sur leurs défauts au lieu de s'appuyer sur ce qui est déjà facile pour eux. Pour moi, c'est un non-sens total d'insister à ce point là-dessus. Ouais, la sortie de zone de confort, c'est un outil, éventuellement, pour prendre des raccourcis. C'est tout. C'est pas un indispensable. On dirait que c'est un petit peu... tu sais, ça correspond au... Est-ce que tu checkes toutes les cases de l'entrepreneur idéal qui est hyper résistant au stress et en gros, ça limite un peu élitiste. Attends, si t'es pas en sortie de zone de confort, si t'es pas capable, t'as rien à faire parmi nous. Moi ça m'intéresse pas et au contraire.
On revient à il faut souffrir pour réussir.
Oui, et en plus, tu sais, cette espèce de diabolisation de la zone de confort comme si c'était une zone de... Tu sais, on la confond beaucoup avec l'habitude. C'est là qu'ils disent, il faut sortir de sa zone de confort pour faire des choses nouvelles. Ça c'est juste sortir de ses habitudes. Et oui, le changement d'habitude, c'est compliqué, même quand c'est pour du mieux, parce que le cerveau, il aime pas trop changer, ça lui demande de l'adaptation, même si c'est pour du positif, tu vois. Mais aujourd'hui, si je sortais de ma zone de confort constamment pour être une vraie entrepreneur, ça veut dire que je ferais des appels découvertes, tu vois, probablement. Ça veut sans doute dire aussi que je ferai beaucoup de prospection en direct, je ferai du gros marketing qui me convient pas, mais je suis pas sûre que ça m'aiderait à développer mon business, mais je sortirai de ma zone de confort. Et souvent je remarque que c'est donné par des gens qui vendent des méthodes, et quand ils ont des gens qui leur disent ça me convient pas trop, mais si tu sors pas de ta zone de confort aussi, t'y arriveras jamais.
Totalement d'accord. Et tu sais, moi, il y a une chose, je suis curieuse, c'est de voir sur le long terme. Et c'est vrai qu'on voit énormément de success stories sur le web, d'overnight success, etc.
Ouais.
Et je le vois, moi j'ai des collègues qui mettent, il y a des nouveaux dieux, des nouvelles déesses qui sont en train de se créer sur Instagram parce que regarde, elle a fait autant de monde. Et je suis là,
moi j'attends.
Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans,
mais même
qu'est-ce
pas.
Que ce sera? Ah oui, ça c'est
moi,
certain,
malheureusement. Moi, tu vois, ça c'est le genre de choses où... Je dis trop rien, je suis là, j'observe, mais j'ai pas trop de doutes parce qu'il y a des gens qui vont tellement au-delà des capacités du corps humain sur la durée que malheureusement, c'est sûr que ça va claquer à un moment donné. Et bon, voilà, les gens ont besoin de se faire... En fait, je crois que j'interviens pas parce que j'ai eu besoin de, malheureusement, de le vivre aussi pour le comprendre. J'ai eu besoin de pousser jusque-là, donc je juge pas du tout. Mais par contre, ça ne m'impressionne plus.
Mm-hmm.
Tu vois, je suis là, ouais, ok, allez, on voit ça dans un ou deux ans, et puis on en reparle. Parce que la suite pour moi, la suite logique, elle est assez évidente. Et c'est juste dommage qu'il y ait autant de gens qui prennent ça comme des modèles, tu sais, et qui aillent se faire du mal sans aller regarder les autres modèles possibles. C'est plus ça qui me gêne.
Mm-hmm. Ouais, totalement. Totalement d'accord. Moi, c'est un des trucs qui me motive le plus à recommuniquer en personal branding cette année, d'aller montrer aussi qu'il y a d'autres réalités. Et qu'on peut totalement faire du chiffre en étant beaucoup plus chill et sans faire des crises d'angoisse tous les deux jours parce qu'on est en train de créer une machine qu'on assume déjà plus.
Mais c'est ça, en fait. J'ai un peu de mal à comprendre. Non, en fait, je crois que les modèles qui attirent le plus sont ceux qui correspondent le plus aux croyances, tu vois. C'est-à-dire que ça vient appuyer ça. Forcément, quelqu'un qui tout d'un seul coup prend un peu toute la place, on a l'impression que c'est la dernière personne qui a réussi et qui applique stricto sensu, tu vois, le travail dur, travailler beaucoup, bah ça vient confirmer cette croyance-là. Donc on est là, bah ouais, ben voilà. Ah voilà. Ah ben oui, eh ben ça marche. Alors que c'est plus dur de se dire, tu vois, ça demande une gymnastique, de se dire, ah, il y a d'autres manières de réussir. Donc je suis pas étonnée et en même temps j'espère vraiment que ça va changer dans les prochaines années parce que les dépressions, les burn-out et le manque d'épanouissement et la frustration, la déception chez les entrepreneurs, il y en a énormément et de plus en plus et je trouve ça dingue qu'on s'attaque pas plus au sujet que ça. On le sait, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui fait quelque chose contre ça.
Ouais. La déception, je suis totalement d'accord et je le vois moi énormément dans mon entourage. Des personnes qui en ce moment sont vraiment mal parce que cravacher, vouloir faire tout comme on a dit qu'il fallait bien faire. Alors, deux déceptions, c'est soit parfois bêtement le chiffre d'affaires ne suit pas et donc on est déçu, ou alors on se rend compte qu'on a construit une machine qui n'était pas celle qu'on avait envie d'avoir, qui n'avait rien à voir avec la vie qu'on rêve, et là ça pète quoi.
Mais tu sais, il y a un petit peu cette chose que les gens se disent pour se rassurer, les histoires qu'on se raconte, que la difficulté dans le business, c'est ce qui donne sa saveur à la réussite. Tu vois, limite, mais si je réussis trop facilement, ça va pas avoir de saveur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai partagé pendant longtemps. Et ce que j'ai compris ces dernières années, c'est qu'en fait, c'est pas ça le truc. C'est que plus c'est dur et plus on a besoin du résultat. Parce que quand c'est difficile, quand on fournit des efforts et qu'on n'a pas le résultat, la chute, elle fait vraiment mal. Et le slowpreneuriat, tu vois, c'est ça aussi. C'est comment tu peux ne pas mettre toutes tes attentes sur le résultat, mais dispatcher aussi avec le chemin. C'est à trouver de la satisfaction et du plaisir, etc. dans la manière dont tu fais les choses, ce qui fait qu'il y a moins d'attentes sur le résultat. Et quand il arrive, t'es content. S'il n'arrive pas, je dis pas que tu sautes de joie, mais quelque part, t'as pas autant souffert dans le processus, donc c'est beaucoup plus facile de rebondir et de se remettre sur autre chose et de se dire juste « Ah bah tiens !» Enfin, moi, aujourd'hui, c'est ça. Des fois, je suis là « Ah tiens, ça n'a pas fonctionné. » Mais je compare par rapport à avant, j'ai beaucoup moins de frustration parce que j'ai moins d'attentes par rapport aux résultats. Et même à l'inverse, tu vois, je me suis rendu compte il y a quelques temps que je suis passée à l'extrême inverse, c'est-à-dire que quand j'ai un excellent résultat, mais... et que ça m'a quand même demandé pas mal d'efforts, je suis là, moi. C'est-à-dire qu'au contraire, là où je kiffe le plus aujourd'hui, c'est quand j'arrive à avoir de très bons résultats et que ça m'a demandé le moins d'efforts possible. Et je ne dis pas de travail, hein. C'est-à-dire que je fais des choses, je fais des actions, mais je n'ai pas l'impression de faire d'efforts. Et c'est, on a juste besoin du résultat. Ça ne donne pas de la plus de saveur, c'est juste que ça nous rassure parce que quand on ne l'a pas, mais qu'est-ce que c'est dur, quoi. Surtout quand on a suivi, tu vois, les conseils d'autres personnes, histoire de bien faire, tu vois, sans se demander, mais moi, j'ai envie de faire quoi? Moi, c'est pourquoi je suis douée, etc. Tu sais, c'est hyper frustrant de se dire, en fait, j'ai tout suivi un peu bêtement et j'ai pas la carotte. Enfin, tu vois, la carotte, elle a disparu au bout, quoi.
Ça, c'est Ça me fait... Hier, je voyais dans les stories Instagram une entrepreneure que je connais et qui parlait à son compte depuis super, super longtemps et qui disait « Ah oui, j'ai enfin... » Enfin, elle avait découvert le truc de la semaine idéale et elle était en train de le créer. Et je me disais « Mais comment est-ce que quelqu'un qui est à son compte depuis autant de temps et qui est toujours en train de dire « je cravache », bosse enfin... » Enfin, je me dis « C'est dommage !» Parce que ça devrait être la base. Moi, c'est le premier truc que je mets dans mes formations. C'est OK, qu'est-ce que tu veux comme life? Qu'est-ce qui est important pour toi? Mais et de là, on va réfléchir au chiffre d'affaires. Et de là, on va réfléchir à ce qu'on met en place. Avant
ça me
tout.
Semble du bon sens.
Mais oui, et ça manque terriblement. Ça manque terriblement.
Mais non, mais parce que tous les modèles pour construire des business sont calqués sur. Tu vois, par exemple, le business model Canva, qui est un petit peu le truc de référence, en fait, c'est fait pour les entreprises. Donc, c'est-à-dire des structures dans lesquelles le fondateur ou la fondatrice n'est pas forcément la personne qui va faire l'opérationnel. Mm-hmm. Et la personne est complètement absente de ces modèles. Et aujourd'hui, la plupart des indépendants sont des freelances ou des indépendants solos, des solopreneurs. Et là, tous ces schémas et ces techniques pour définir ces offres ne tiennent pas compte de... Enfin, si, elles vont tenir compte de l'humain, mais que dans qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais on ne demande pas, ouais, mais tu as envie de faire quoi, en fait? Surtout, tu as envie de faire quoi? Et après, on passe je ne sais pas combien de semaines à essayer de se différencier, alors que du coup, on est tous des clones les uns les autres. Parce qu'on a tous le même marché, du coup les mêmes clients cibles, tu vois, et on essaye de se distinguer en ayant une charte graphique originale. Mais en fait, vraiment économisez vos sous, hein, économisez votre temps, économisez votre énergie. Il faut replacer la. C'est, pour moi, ce que tu dis, c'est du bon sens, et c'est ce que je fais aussi. C'est, t'as envie de vivre quoi au quotidien? Pas dans 10 ans, mais là, demain, tes journées, t'as envie qu'elles ressemblent à quoi? C'est quoi ta réalité? Et construire un business qui respecte déjà cette réalité, pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça n'a aucun sens pour moi.
Je suis complètement, complètement d'accord. Moi, une erreur que j'ai beaucoup faite, c'est de me dire, allez, je cravache pendant 1 mois, 2 mois, et après, je pourrais profiter. Ouais, et tu sais, c'est le moment... Ah oui, alors déjà, au bout de 10 jours, j'arrivais plus à travailler autant que je le voulais, quoi. Enfin, mon corps, mon cerveau me disait... Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à vivre le lifestyle que je voulais avoir, que là, tout d'un coup... Ah ben oui, parce qu'on est plus reposé, donc on est plus efficace.
Et ben oui. Mais c'est pour ça que j'ai conscience de l'environnement dans lequel on évolue, mais pour moi, les croyances, tu vois, c'est juste... Ça reste des histoires qu'on se raconte. Et il y a des croyances qui peuvent être positives et qui peuvent nous aider. Mais là, ce dont on a parlé, elles ne sont pas vraiment à notre avantage. Et après, il y a la réalité, tu sais, physiologique. Et je trouve ça dingue, c'est pour ça que je te disais, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui on comprenne les dégâts de tout ça sur les gens dans l'entrepreneuriat, mais j'ai l'impression qu'il y a, voilà, on constate, voilà, il y a de plus en plus de burn-out, etc. Et à côté de ça, il y a une espèce de fatalisme basé sur du vent, uniquement sur des histoires qu'on se raconte, sur « ah bah oui, mais il n'y a pas le choix ». Mais non, mais les gars, regardez juste comment fonctionne le corps humain, en fait. Quitte à le prendre pour une machine, autant le faire correctement. C'est quoi les rouages? Comment on fonctionne? Et quand on commence à s'intéresser à ça, des clés, il y en a plein. Des clés de productivité. Et ça passe par le repos, en fait. Par le prendre soin de soi. Et ça passe pour tout ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être qu'il y en a... Je serais curieuse de savoir. Est-ce que les gens se disent « Oh, c'est pas très sexy ». Bah, c'est peut-être pas très sexy, mais ça marche, en fait. Donc, à la limite, à ce stade-là, est-ce qu'on s'en fout peut-être, quoi.
Est-ce qu'on est tous égaux à ce niveau-là, au niveau de la capacité de travail et de travail intelligent ou pas? Tu sais, moi, ces trucs, j'adore tout ce qui est human design, machin et tout. Enfin, je regarde d'un œil. Parfois, je le prends au sérieux quand ça m'arrange et je le prends pas au sérieux quand ça m'arrange pas. Il y a quand même, on m'a toujours dit, ah ben ouais, t'es projecteur. Donc toi, tu fais partie des gens qui vont être super efficaces pendant, très focus pendant 3-4 heures. Mais après, c'est tout, il faut se reposer. Ça correspond assez bien avec ma manière de fonctionner. Ouais. Mais au final, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Au final, pas c'est vrai, c'est faux, mais quel est ton avis là-dessus?
Non, je pense que ce soit sur le human design ou même quand on regarde au niveau encore une fois, biologique et de nos réalités, au contraire, non, on part pas tous du même, de la même base. Y a des gens qui ont plus d'énergie que d'autres, il y a des modes de fonctionnement qui vont se nourrir, par exemple, des interactions sociales, alors que d'autres, ça va les fatiguer, même s'ils aiment ça. On a énormément de différences, et c'est ça qu'il faut comprendre, à mon sens. C'est que, tu vois, quand je parle de faire en fonction de sa réalité, c'est pas juste est-ce que t'as des enfants ou pas, c'est aussi ça. On part pas de la même base, et c'est tout l'intérêt de construire autour de soi et d'aller choisir des angles, des méthodologies de travail, des business models qui sont adaptés à soi, Parce que justement, on n'est pas tous égaux. Est-ce qu'on mérite tous de réussir et d'être heureux? Oui, mais ça, tu vois, c'est une question de justice. Par contre, on part pas tous avec les mêmes billes, mais clairement pas. C'est pour ça que toutes les méthodes peuvent pas convenir à tout le monde. Et moi, enfin, quelque chose que je vois beaucoup, par exemple, dans ma clientèle, j'ai pas mal de mamans, par exemple. Pas que, mais j'ai pas mal de mamans, de personnes qui sortent d'un burn-out, des personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes qui sont encore salariées à côté. Bah, évidemment que ces personnes-là ne vont pas avoir ni la même énergie, ni la même réalité que quelqu'un qui est célibataire, sans enfant, qui a 25 ans. Tu vois, j'ai des personnes qui ont plus de 50 ans aussi. Enfin, faut faire en fonction de ça. Plus tu essayes de copier des... de copier des méthodes de gens qui n'ont pas la même réalité que toi, qui ne fonctionnent pas du tout comme toi, et plus tu fonces dans le mur. Mmh. Et c'est, pour moi, c'est assez logique, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ou alors, peut-être c'est parce qu'on en parle souvent, tu vois, sur du human design ou des choses comme ça. Moi, je suis très ouverte à ce genre de choses, mais je sais que dans le business, il y a plein de gens qui vont se dire c'est trop ésotérique pour du business. Mais sans aller dans la spiritualité et l'ésotérisme et ce genre de choses, mais juste de manière hyper pragmatique, tout le monde n'a pas le même niveau d'énergie, tout le monde n'a pas le même quotidien et bah faut s'adapter à ça. C'est pour ça qu'on part du salariat pour beaucoup, parce que ça colle pas avec notre réalité, donc c'est quand même dommage de repliquer les mêmes choses après à son compte, tu vois.
Je suis totalement d'accord. Alors, je voulais savoir si, là maintenant, on nous écoute et on se dit « Ah ouais, là, je suis complètement en train de partir sur une mauvaise pente, ça va pas du tout. » Quelle serait la première chose? On a déjà donné quelques pistes, hein, réfléchir à comment on fonctionne, etc. Mais quelle serait, si tu avais vraiment une chose hyper actionnable pour vraiment sortir de cette pente vers la hustle culture, pour revenir vers le slowprenariat?
Ouais, je crois que moi, ce que j'aime bien faire aux gens, c'est leur faire dresser la liste noire de tout ce qui les gonfle dans leur business ou tout ce qu'ils ont du mal à faire. Donc, ça peut comprendre, ça va un peu en mode défouloir, quoi. C'est-à-dire que prendre dans votre quotidien actuellement toutes les trucs où ça frotte. Ça peut être un client en particulier ou un profil de client. Ça peut être une manière de communiquer ou de vendre ou franchement, vous le faites parce que peut-être que ça marche, hein, mais... Ça vous gonfle, vous aimez pas ça. Ça peut être certains contenus que vous suivez et qui vous font plus de mal que de bien. Mais vraiment, dresser votre liste noire, le défouloir de ça, ça peut être le format sous lequel vous appliquez votre métier aussi. Ça peut être les outils, ça peut être tout ça. Mais vraiment, si vous aviez une baguette magique et que demain, vous aviez une autre solution à tout plein de choses pour que ça se passe mieux, dressez cette liste noire parce que ça permet en fait d'avoir un plan d'action. C'est-à-dire que tout ça, c'est des choses à faire évoluer. Et puis après, bah, selon ce que c'est, par exemple, les clients, on dit, non, mais ces clients-là, ils me gonflent, bah, c'est probablement que vous attirez par votre communication certains clients qui se sentent concernés, mais en fait, ce n'est pas les bons pour vous. Si c'est des méthodologies de travail, bah, pourquoi vous appliquez celles-ci? Peut-être parce que vous avez entendu, on vous a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Comment vous pourriez atteindre les mêmes choses différemment? Donc, ça peut paraître un gros chantier, vous n'êtes pas obligé de tout changer tout de suite. Mais la beauté, je trouve, du slow, c'est que tout petit changement amène déjà un résultat palpable. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout changer d'un coup, mais si déjà vous vous dites, ok, là actuellement, je communique je communique sur Instagram, mais en fait, Instagram, ça me gonfle. Vraiment, je n'aime pas ce réseau et je me force et j'y passe des heures parce qu'on m'a dit qu'il y avait du potentiel. Ok, c'est quoi vos objectifs sur Instagram? Votre cible, elle n'est jamais à un seul endroit. Donc, où est-ce que vous pouvez aussi lui parler et vous montrer, mais d'une manière qui soit beaucoup plus respectueuse de ce que vous aimez faire. C'est vraiment se demander ça. Ça ne me va pas. Comment est-ce que je peux le faire évoluer? Et rien que d'avoir cette liste-là, ça peut paraître un gros chantier, mais c'est la base.
Je valide plus. Encore une fois, c'est un truc que je vais faire en introduction dans mes programmes parce que c'est la base pour construire un business qui va nous plaire. Et moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Mais c'est même pas que je le fais à date. En fait, c'est dès qu'un truc, moi, me saoule dans le business,
c'est ça. Moi, c'est
quand
pareil.
Je sens, je l'enlève. Et alors, du coup, je veux bien ton avis sur cette croyance avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, où on dit, il y a d'office des choses qui ne vont pas te plaire dans ton business. Il faut d'office faire des choses qui nous ennuient, qui ne sont pas agréables. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors moi, je trouve qu'à part des choses où c'est des obligations légales, c'est-à-dire faire sa compta, déclarer les choses, qui vont effectivement pas être le kiff de tout le monde, mais je trouve que c'est assez rapidement délégable aussi, sans que ça coûte trop cher. Tout le reste, c'est malléable. Globalement, pour avoir un business, il faut avoir quelque chose à proposer, savoir à qui, et un endroit pour le faire savoir à ces personnes. C'est, en fait, tu vois, moi, quand j'entends les gens qui se disent « Mais moi, la première année, quand on se lance, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. » Moi, je suis là « Ah bon ?» Mais c'est-à-dire, en vrai, définir une offre, pas 50, mais un truc, savoir spécifiquement à qui et avoir au moins un endroit pour le faire savoir. Enfin, moi, ça me semble pas, une quantité de travail énorme. Et surtout, dans ces choses-là, bah là, il y a tellement de possibilités que bah, y a toujours moyen de trouver une façon de faire qui nous corresponde. C'est-à-dire, peut-être que la première chose, ce serait d'identifier à qui on a envie de s'adresser, parce que ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est de co-construire un peu l'offre, co-construire le format. Tu vois, faire une étude de marché juste pour faire des recherches sur Google avec des pourcentages et faire un questionnaire, c'est cool. Mais en vrai, c'est chiant. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent d'aller trouver 5-6 personnes qui sont dans notre cible et d'aller discuter avec elles. Et la première offre, en fait, on l'a plus rapidement qu'on pense. En trouvant le point de jonction entre leurs besoins et ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de proposer, ce qu'on a envie de faire. Après, bah, ces personnes-là, au passage, peut-être leur demander comment est-ce qu'on peut les toucher. Déjà, comment on les a trouvées, sur quels réseaux sociaux elles sont, si on a envie d'aller sur les réseaux sociaux. Comment elles s'informent habituellement par rapport à cette problématique-là. Et puis, regarder ce qui nous convient là-dessus. Et on commençait juste par ça. Donc, à part la compta, c'est-à-dire vraiment les obligations légales, tout le reste, c'est malléable. Et là, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre ce côté, la première année, il faut cravacher, parce que je trouve que c'est là qu'on a le moins de choses à faire.
Mm-hmm.
En vrai. Après, une fois qu'on a ça, bah, on peut continuer à construire petit à petit, mais je sais pas. Enfin, si,
est-ce
j'ai plein d'explications,
que les
mais...
gens vont penser à leur charte graphique, à leur site internet,
non,
à ceci,
mais ça, c'est moi aussi,
sur
j'ai fait au bout d'un
les
an.
Plateformes. Hein. Moi, mais... ça fait un an et demi que j'ai plus de site internet.
Ouais.
Et il n'y en aura pas avant cet été, je pense, parce
mais
que
non,
je vois très
mais
bien
je...
son... Oui.
Ben, je pense que tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens regardent, ils ont des modèles, et ils font un peu la liste de, ok, donc cette personne-là a tel résultat, et alors qu'est-ce qu'elle a ? Elle est sur Instagram, elle est sur LinkedIn, elle a une newsletter, elle fait un podcast, elle a un site internet, elle a 3 offres. Et en fait, et moi j'en ai croisé beaucoup des gens qui disent, ah ben oui, mais attends, là je peux pas encore proposer quelque chose parce que j'ai pas encore mon site, j'ai pas encore communiqué, j'ai pas encore fait ça. Et c'est un peu de la procrastination active, tu vois, c'est-à-dire que les gens font plein de choses. Mais ils font pas les choses qui vont leur apporter tout de suite des premiers clients. Donc c'est normal que ça...
Oui, et ils vont faire plein de choses jusqu'à 10h du soir pendant 3 mois. Et puis ils vont s'étonner qu'ils sont fatigués.
Eh bien ouais, et je crois que il y a aussi un vrai problème dans comment on accompagne les gens qui démarrent en fait. Tu vois, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a peu de... que ce soit des coachs business ou des conseillers, tu sais, dans des institutions un peu plus de l'État, etc., il n'y a pas grand monde qui a un discours en disant « Ah ben, au début, de toute façon, c'est le plus simple.
Ouais. »
Alors que moi, c'est mon avis. Au début, on a peut-être... Bon, il y a plein d'inconnus, mais en vrai, on n'a pas encore de clients, quoi. Donc, on a du temps, on a de l'espace, et c'est là que c'est pas mal de tester des choses, tu vois. On a du temps pour ça, mais il y a combien d'indépendants qui passent beaucoup de temps à faire leur communication, par exemple, qu'on fait plein de choses, et le jour où elles ont leur premier client, en fait, elles ont plus le temps de s'en occuper.
Mm-hmm.
Tu vois, c'est quand tu as mis en place un système pour récolter des clients qui te prend déjà tout ton temps, bah, ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes tes clients en plus, et tu as peur de changer ce système-là, parce que tu es là, oh, ça me prend déjà tout mon temps, et en plus, ça me rapporte que peu de clients, donc si je le change, je vais perdre mes clients. Enfin, tu vois, c'est un peu le cercle vicieux, quoi.
Totalement, totalement. Et je pense que ça manque, on manque terriblement d'exemples qui disent, mais non, ça peut être simple. Ce que tu disais, voilà, les coachs business et tout qui proposent des formations pour se lancer. En fait, pour avoir été à une époque, je bossais un peu plus avec des débutants. Et franchement, quand tu leur proposes une méthode simple, on va d'office te demander, ah ouais, et dans ton programme, tu nous apprends à faire un site internet, et tu nous apprends à faire ceci, et tu nous apprends à démarcher la presse, et tu nous apprends à ceci. Et t'es là, non, mais t'en as pas besoin. Et les gens ne veulent pas.
Il te faut une offre.
Et j'ai vraiment l'impression que tant qu'on n'a pas testé, ils veulent pas s'en rendre compte. Et du coup, toi, c'est vraiment ta mission. Du coup, ça me permet d'enclencher sur le mouvement ma slow boîte que tu développes. développe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu fais sur le web, mm-hmm. mais également en présentiel, c'est qu'il n'y a pas longtemps, tu as donné ta première conférence, il me mm-hmm. semble. Voilà, c'est quoi le but, on l'a compris, mais qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le web si on a envie de te suivre?
Ouais. Alors la mission de ma slowboîte, c'est vraiment de démocratiser le slowprenariat et de le placer à terme au même niveau de crédibilité que l'entreprise traditionnelle et la start-up. Tu vois, aujourd'hui, il y a ces deux modèles-là qui existent, auxquels chacun s'identifie plus ou moins. Et c'est de placer un troisième type d'entreprise qui permet d'équilibrer. Pour que chacun puisse placer son curseur là où il veut sur ce spectre-là. Et puis, ça peut varier en fonction des périodes de la vie aussi. Donc ça, c'est la mission de ma slowboîte. Et pour ça, je suis sur trois axes. Il y a l'accompagnement d'indépendants et d'entrepreneurs, soit en consulting court, soit en programme d'accompagnement long et en groupe, avec une partie formation en autonomie et puis des lives, un peu comme ce que tu fais tous les mois pour les problématiques individuelles. Il y a la formation d'accompagnants au slowprenariat. Ça, c'est quelque chose que j'ai lancé en 2023 parce que je ne suis qu'une seule personne qui a certains formats et certaines compétences. Et au contraire, j'ai envie de démultiplier les personnes sur la francophonie qui accompagnent à ça. Et la troisième branche, c'est vraiment la mission de porte-parole où je vais faire, c'est ce que je fais avec toi aujourd'hui. Et c'est vraiment aller faire des conférences, aller faire des prises de parole dans les médias pour... parler du mot aussi, parce que tu l'as dit en introduction, il y a encore beaucoup de gens qui mettent une connotation négative sur le mot slow, et je pense que ça peut changer uniquement en habituant les gens à l'entendre. Et puis c'est faire comprendre un petit peu que les choses peuvent fonctionner différemment, et moi j'adore parler, donc tu vois, j'exploite mes talents. je vais parler. Donc c'est un petit peu les... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est les trois axes sur lesquels je travaille sur ma slowboîte.
Génial, on mettra tous les liens en description du podcast. Et là maintenant, sur Instagram, tu es suivie par un petit peu plus de 11 000 personnes. Mm-hmm. Est-ce que, je me demandais, est-ce que tu reçois parfois des messages de mal compréhension par rapport à ce que tu fais, parce que tu as quand même un discours qui va à contresens de beaucoup de choses, mm-hmm. ou c'est plutôt chill? Il me semble pas avoir déjà vu, mais je voulais te demander, comme je sais que c'est une peur, personne qui nous écoute, même dans mes clients, qui ont parfois comme ça des convictions, un peu peur de mm-hmm. les affirmer, est-ce que tu as déjà eu des commentaires un peu touchy ou pas?
Non, franchement, c'est hyper rare. J'ai eu juste sur un reel où justement je parlais de la fameuse sortie de zone de confort et de comment c'est basé sur une étude faite sur des rongeurs et des poulets, donc qui a très bien marché. Et là, sur ce reel-là, parce qu'il a eu beaucoup de visibilité, j'ai eu certaines personnes qui, soit qui n'avaient pas vraiment regardé, donc qui répondaient juste, mais non, la sortie de zone de confort, c'est essentiel, enfin voilà. Et des personnes qui n'étaient pas d'accord, mais en dehors de ça, en vrai, non, j'ai pas, même sur LinkedIn, tu vois, où je poste plus. Je crois que peut-être les gens qui sont pas d'accord avec ça ne prennent pas la peine, tu vois, de mettre des commentaires. Par contre, ce dont je me rends compte, c'est que plus j'affirme mes positions, et plus ça fait du bien aux gens. Mm-hmm. Donc, même si j'avais quelques haters, tu vois, qui arriveraient en me disant « Mais non, c'est pas vrai, faut pas dire ça », je dis pas que ça me ferait, probablement que ça me ferait suer, tu vois, mais... ça n'empêcherait pas que je continuerais d'aller toujours plus loin dans le fait d'affirmer mes positions, parce que plus je suis spécifique là-dessus et affirmée, et plus ça a de l'impact positif sur les gens qui me suivent. Donc c'est ça qui compte pour moi. Alors que quand on ose moins, je crois que c'est plus flou pour les gens, et finalement, je sais pas si ça aura autant d'impact.
Mmh, la mission... Avant tout. Ok, super. Ouais. Alors, au niveau de ton actu, si on a envie de bosser avec toi, il me semble qu'il y a bientôt quelque chose qui ouvre.
Ouais, le 25 mars, je relance les inscriptions pendant 5 jours pour la deuxième cohorte de ma formation d'accompagnant au slowprenariat. Donc, soit pour les personnes qui accompagnent déjà les entrepreneurs et qui auraient envie de le faire peut-être en mettant moins d'injonctions, ou des gens qui ne les accompagnent pas forcément sur le volet professionnel et qui voudraient pouvoir le faire, ou tout simplement, ce qui est le cas de au moins la moitié des personnes qui sont dans la première cohorte, des prestataires de services qui partagent leur manière de travailler en solopreneuriat et à qui on demande souvent « Mais comment fais-tu ? J'aimerais bien moi aussi, etc. » Donc tant qu'à faire si vous voulez ajouter cette corde à votre arc. Et ça, c'est pour l'actu. Et puis après, c'est toujours possible à tout moment de rejoindre mes programmes. Voilà, c'est en evergreen, on peut le rejoindre n'importe quand, en fonction des besoins. Pareil pour les consultings, il suffit de réserver sa session en un clic. Donc ça, c'est facile.
Parfait, bah super. Et on retrouve toutes tes infos en description du podcast. Bah merci Laure, c'était super, super intéressant. Alors du coup, j'ai une dernière question pour conclure ce podcast. Est-ce qu'il faut encore cravacher pour réussir sur le web en 2024? Je connais déjà ta réponse, mais...
Ce n'est qu'une option si on a envie de se faire du mal, mais c'est absolument pas une obligation. Clairement pas.
J'adore, c'est une option si on a envie de se faire du mal.
Ah bah oui, on peut... D'accord. Ah non, mais en fait, c'est ça. Hein. Moi, je veux dire, chacun... Pour moi, c'est ça. C'est une option. On a le droit de travailler dur si on a envie. En fait, c'est pas mon problème, tu vois. Je veux dire, si on a envie, oui. Si c'est un choix conscient, on a tout à fait le droit. Mais c'est absolument pas une obligation. Voilà. C'est juste une injonction aujourd'hui.
Totalement, totalement d'accord. Et surtout avec tous les outils qu'on a pour nous aider.
C'est ça.
Et l'intelligence artificielle qui débarque. Bon sang, je pense que dans un an, on pourra réenregistrer cet épisode parce qu'il y aura plein de choses qui auront évolué.
C'est clair. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour conclure, faut juste observer ce qui se passe. Ça fait quelques centaines d'années qu'on construit toujours plus d'outils pour gagner du temps. Et pour autant, on travaille toujours plus. Donc c'est bien que c'est pas les... Il faut les saisir, ces outils-là. Il faut faire la paix avec notre peur peut-être du vide ou je ne sais pas quoi, mais il y a plein de choses à faire dans le reste de la vie et s'il faut occuper du temps libre, personnellement, je sais quoi en faire.
Ah, tu poses un point important, ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'ai adoré t'écouter et je suis certaine que les auditeurs auront adoré cet épisode aussi. Et puis surtout, j'espère qu'il aura permis de casser de ces bonnes idées reçues sur il faut travailler dur, il faut souffrir pour être un entrepreneur accompli, parce que je partage totalement toutes tes idées par rapport à ça. Donc un énorme merci, ça a été un plaisir de t'accueillir.
Ben, merci à toi pour l'invitation et c'était trop chouette d'en parler sur ton podcast. Trop cool.
Top, merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, je vous avais dit que cet épisode remuait, mais c'est normal. On a été gratté plein de croyances. On a parlé d'énormément d'injonctions business qu'on voit partout. Et donc, c'est normal, quand on va un petit peu à contre-courant de ce qu'on voit partout, ben forcément, ça interpelle. Et même moi, alors que ça fait des années quand même que je travaille sur ces notions d'avoir un business qui est vraiment au service de ma vie, d'avoir quelque chose qui est aligné avec moi, mais même moi, ça me fait du bien de l'entendre. Et même moi, parfois, ça me trigger sur certaines choses parce que j'ai encore plein de croyances et c'est tout à fait normal. Et on a totalement le droit de prendre le temps un petit peu de digérer toutes ces notions. Alors, après avoir réécouté cet épisode pendant le montage, j'ai noté quelques points clés que j'avais envie de revoir avec vous. Alors, première chose importante à retenir, c'est que travailler à sa manière, c'est la meilleure manière d'avoir des résultats et surtout des résultats sur le long terme. Il faut vraiment s'autoriser à faire ce qu'on aime et on a le droit de supprimer des tâches qui ne nous font pas plaisir. Rappelez-vous, Laure a bien dit, au final, les seules choses qui sont vraiment obligatoires au business, c'est les choses qui sont légales, comme faire des factures, etc., etc., faire sa déclaration TVA, etc., etc. Donc, globalement, il y a plein de choses qui ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Instagram, vous n'êtes pas obligé d'avoir un podcast, vous n'êtes pas obligé d'avoir une newsletter, vous n'êtes pas obligé d'être sur Pinterest. En fait, il y a plein de choses qui fonctionnent. Vous avez juste le droit de piocher dans les choses que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est pas génial? Alors, deuxième chose également par rapport à la réussite, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas que le temps de travail dans la réussite de quelqu'un. Alors certes, il faut quand même bosser pour avoir des résultats. Au bout d'un moment, il y a des actions à mettre en place. On a le droit de choisir les actions qu'on va faire, mais au bout d'un moment, il faut les faire. Cependant, le fait de faire beaucoup de choses sur une journée, de faire des longues heures de travail, ce n'est pas ça le secret de la réussite. Il y a plein d'autres éléments. On a tous une réalité différente, on a tous un background différent, on a tous un entourage différent, ce qui fait que la réussite de quelqu'un ne peut pas être attribuée uniquement à un certain nombre d'heures de travail. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre et surtout autorisez-vous également quand on a tendance à se comparer à d'autres personnes, parce que c'est naturel, au bout d'un moment, on a beau dire, faut pas se comparer, on ouvre Instagram, on finit par se comparer à d'autres personnes. Vraiment, autorisez-vous à vous dire, c'est pas grave si cette personne va plus vite que moi, c'est pas grave si cette personne a des meilleurs résultats, entre guillemets. C'est pas le temps de travail, ne vous dites pas que vous devez bosser plus, parce qu'en fait il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Cette personne a peut-être eu un coup de chance, cette personne a peut-être quelqu'un dans son entourage qui lui a donné des conseils pendant des années pour réussir plus vite. Il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte dans la réussite, et donc vraiment arrêtons de croire que c'est juste le temps de travail et le nombre de tâches qu'on fait sur une journée qui fait que quelqu'un réussit ou pas. Alors également, troisième chose qui est hyper importante, et ça c'est quelque chose que vraiment moi je vais essayer de me rappeler parce que j'ai tendance à parfois l'oublier et parfois m'égarer par rapport à cela, c'est que c'est important de construire un business qui respecte notre réalité de rêve aujourd'hui et pas dans 3 ans, dans 5 ans. Donc arrêtons de croire que notre business va nous permettre de vivre notre meilleure vie dans quelques années. Notre business, il doit nous permettre de vivre notre meilleure vie à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est pas facile, hein. Ça va vraiment très loin des injonctions qu'on a tendance à entendre, mais c'est vraiment indispensable. Et je l'expliquais dans l'épisode, hein. Moi, il y a des moments, j'arrive vraiment à être dans ce flow où je suis vraiment en train de m'autoriser à vivre ma best life, et c'est à ce moment-là que le business vraiment fonctionne le mieux. Et il y a des moments où je repars un petit peu dans d'anciennes manières de fonctionner, et il faut vraiment que je travaille au niveau mindset pour me dire non mais c'est bon, tu n'as pas besoin d'être 10 heures derrière ton ordinateur, c'est pas ça qui va faire avancer les choses, continue de faire les choses que tu aimes l'après-midi, tu n'es pas obligé d'être toute la journée derrière ton ordinateur. Et c'est vraiment assez compliqué de parfois se remettre dans cet état d'esprit, donc c'est encore quelque chose qui est en travail de mon côté, je vous rassure. Et puis j'aimerais également terminer avec une question que Laure a posée sur la fin, où elle disait concrètement, est-ce qu'au final le fait qu'on s'ajoute comme ça du travail, est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on a peur du vide? Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on a peut-être peur d'avoir des journées qui se retrouvent à être vides parce qu'on n'a rien à faire? Et je suis convaincue que ça, c'est une réalité, c'est un sujet sur lequel, en fait, on pourrait presque philosopher pendant tout un épisode, parce que c'est vrai qu'on nous apprend à être occupé, on nous apprend à être occupé du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là si jamais on ne doit pas être en train de travailler? Il faut se trouver des passions, il faut se trouver des hobbies, il faut se trouver des occupations personnelles, et c'est peut-être moins évident qu'on ne le pense. Et je pense qu'un exercice sympa que tout le monde pourrait faire, c'est peut-être faire la liste des choses qu'on ferait si on n'avait pas besoin de travailler. Alors peut-être pas toute la journée, mais se dire, ok, si on ne bossait que le matin, qu'est-ce qu'on ferait de ces après-midi? C'est déjà une question, je trouve, très intéressante, parce qu'une fois qu'on va trouver les activités qu'on a envie de faire, les tâches qu'on a envie de faire, au lieu que d'être en train de réellement bosser de manière productive, hein, sur son ordinateur, etc., je pense que ça va nous donner envie de peut-être, pas ralentir, mais en tout cas, voir le business d'une autre manière. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire très régulièrement. C'est pour ça que je m'oblige à aller, par exemple, plusieurs fois par semaine au sport. Tout simplement parce que déjà, j'aime bien, mais également parce que ça m'oblige à avoir un rythme de travail plus light en termes d'heures. Et c'est pas pour autant que je suis moins efficace, loin de là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous voulez découvrir un petit peu plus le travail de Laure, vous retrouvez toutes ces informations dans la description du podcast. Elle est très active sur Instagram, n'hésitez pas à aller la suivre. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, je suis certaine qu'elle va adorer. Ou n'hésitez pas à le repartager en story en nous taguant toutes les deux, comme cela on pourra venir également vous faire un petit coucou. Et écoutez, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je serai en mode solo la semaine prochaine, et vous allez voir, c'est un épisode interactif qui a été réalisé grâce à vous sur Instagram. Donc rendez-vous mercredi prochain, et pour ne pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite.